Bonjour à tous, à toutes. Ce matin, nous continuons notre série de lectures dans l'épître de Paul aux Romains. Donc la lettre que Paul a écrite aux Romains, pour ceux qui veulent suivre dans leur Bible ou sur leur smartphone. Romains 5, et je lirai à partir du verset 1. Je vous resitue un petit peu ce qui a été parcouru déjà dans les chapitres précédents. Donc Paul écrit à cette communauté qu'il ne connaît pas, mais il veut la visiter et il veut tisser des liens avec cette église de Rome parce qu'il veut en faire une espèce de base arrière pour sa mission. Et son grand projet à Paul, c'est d'annoncer l'évangile en Espagne. Malheureusement, l'histoire montre que son voyage s'arrêtera à Rome, puisqu'il y sera décapité, mis à mort. Et il ne pourra pas aller plus loin. Mais cet épître aux Romains est une œuvre majeure de la Bible et des églises chrétiennes, pour les églises chrétiennes. Et là-dedans, il fait son plus bel exposé, sans doute, et son plus complet exposé de ce que c'est que l'Évangile et toute la théologie qui est rattachée au règne de Dieu. D'abord, on a vu quoi? On a vu récemment que malgré tout ce qu'on peut croire sur le christianisme et toutes les représentations qu'on peut avoir des chrétiens, des bonnes actions, des grenouilles de bénitier, de donner la dîme et toutes ces choses-là, Paul affirme très clairement et redit et insiste avec lourdeur sur le fait que personne ne parviendra. Personne ne parviendra à la résurrection, à cette espérance de l'au-delà que Gilles vient d'évoquer par rapport à son cancer, parce qu'il aura fait des bonnes œuvres. Personne. Dieu ne sauve pas ceux qui ont le capital de bonnes actions le plus élevé. Non. Ce qu'on a vu la semaine dernière, il y a quelque temps avant aussi, c'est que notre grande espérance à nous chrétiens, elle se trouve juste derrière moi, masquée par ces fleurs d'amandier, c'est la croix du Seigneur Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous avons un sauveur qui a accompli toutes choses pour que nous puissions être pardonnés et sauvés par Dieu. C'est ça le fondement de notre espérance. J'aime bien dire à mes catéchistes et aussi à ceux que je prépare au baptême, Jésus et moi, on a fait un troc. Mon manteau sale et chargé de péché, il l'a ôté de mes épaules et il l'a pris sur lui le jour où il est mort sur la croix. Et son manteau immaculé de justice, il s'en est dévêtu et il m'en a revêtu. C'est un troc dans lequel il a l'air un petit peu perdant. Mais lui est ressuscité des morts. Lui a pu subir à la fois ma condamnation et en même temps revenir à la vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ma relation à Dieu ne dépend pas de ce que je fais ou ne fais pas. Mais d'abord, ma relation à Dieu dépend de ce que, est-ce que j'ai confiance? Est-ce que je place ma confiance dans celui qui a tout fait pour moi? Fort de ces prémices, je vous invite à lire le début du chapitre 5 de Romains. Étant donc rendu juste, justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui, pardon, c'est à lui que nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la persévérance, une fidélité éprouvée. Et la fidélité éprouvée, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être aurait le courage de mourir pour un homme bon. Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. À bien plus forte raison maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à bien plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Plus encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Jusqu'ici, la lecture de la parole. Ça a l'air un petit peu chargé comme ça, comme texte, mais on va essayer de le rendre plus clair. Je commence par le début. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela veut dire? Que j'ai une relation réconciliée avec Dieu. Alors, c'est plus que un cessez-le-feu, c'est plus qu'une espèce de restauration d'une paix fragile, histoire d'entamer des négociations. En fait, c'est une réconciliation définitive. Autrement dit, il n'y a absolument rien que je puisse faire, il n'y a rien que vous puissiez faire, vous qui avez reçu cet esprit de Dieu, qui puisse à nouveau mettre à mal l'amour de Dieu pour vous et votre relation. C'est définitif. Cette réconciliation ne peut plus être brisée. Quelque chose sur lequel on peut compter. En fait, c'est le socle, la base, les fondations de l'édifice de notre foi. Je suis en paix avec Dieu. Et donc, il y a des conclusions à ça. Mais si le fait d'être en paix avec Dieu est un doute, alors là, il y a quelque chose que je n'ai pas encore saisi, que je n'ai pas encore reçu, ou dont je ne me suis pas emparé au niveau de ce qu'a fait Jésus. Si je crois que l'attention de Dieu sur moi, que l'amour de Dieu envers moi doit être mérité, doit être excité par des bonnes œuvres, par des jeûnes, par des contritions, c'est que je n'ai pas compris l'étendue, le pouvoir, oserais-je dire, de ce que Jésus a accompli à la croix. Et de Paul de dire, donc, j'ai accès à cette grâce, ce lieu, cette façon d'être en relation avec Dieu, où en fait, tout est pardonné. Passé, présent et futur. Tout est pardonné. J'ai accès à cette grâce. Et là, Paul emploie une expression que je trouve étrange et très intéressante. Il dit, et du coup, puisque j'ai une paix qui est certaine avec Dieu, et puisque, quoi que je fasse, Dieu ne me rejette pas, quelle est ma destinée finale? Où est-ce que je vais finir ma course? Là, je fais encore écho aux mots de Gilles. Bon, j'ai un cancer. De toute façon, je sais où je vais. Pourquoi? Parce que c'est un mec super bien? Parce qu'il est droit dans ses bottes et que le matin, il se lève, il dit, aujourd'hui, Seigneur, je ne pêche pas, et que le soir, il se couche et qu'il n'a pas péché? Et parce que cette réconciliation, cette grâce a eu lieu dans sa vie et qu'il y demeure et qu'on Il sait où l'emmènera sa course. Et alors Paul dit, nous nous glorifions de l'espérance de la gloire de Dieu. Alors ça, c'est du bon patois de Canaan quand même. Nous nous glorifions de l'espérance de la gloire de Dieu. Ok, nous nous glorifions, ça veut dire qu'on se vante quelque part, On est fier de quelque chose, ok? On se glorifie de l'espérance. Ah, d'accord, donc ce n'est pas encore là. On est, waouh! On se fortifie dans la tête là de quelque chose qui va à venir. Et c'est quoi? Ben, c'est, on se glorifie d'une gloire. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, nous autres chrétiens, nous avons tout un tas d'espérances, d'attentes. On les résume dans une grande idée qu'on appelle le règne de Jésus, le règne de Dieu. On croit que Dieu, dans les cieux, est tout-puissant et conduit toutes choses. Mais cette autorité qu'il a, il ne l'exerce pas de manière manifeste, évidente, directe, dans notre monde. Voir tout ce qui se passe, les guerres, l'instabilité, l'égoïsme, l'impérialisme de certaines nations, des choses comme ça, les relations entre les hommes et les femmes, l'exploitation d'enfants, nommez tout ce que vous voulez comme catastrophe qui se passe dans ce monde en ce moment. Pour nous, chrétiens, c'est une preuve que Dieu n'exerce pas son règne de manière directe sur le monde. Mais il nous exhorte, il nous enseigne, il nous transmet, comme l'a lu Philippe, à être, nous, des témoins du chemin de lumière de ce monde, à ne pas rendre le mal pour le mal, à bénir ceux qui nous maudissent, à pardonner, à faire un mille de plus, etc., etc. Pas pour rien, pas juste pour être gentil, mais pour être une preuve vivante de ce royaume qui vient. Et donc, quand on parle de nous glorifier en espérance, ça veut dire de nous réjouir et de nous fortifier avec la perspective que un jour Dieu va régner. Eh ben, c'est ça, cette gloire. Aujourd'hui, si je dis en scène publique, heureux les doux car ils hériteront de la terre. Des gens vont sourire peut-être, des gens me disent, ah, ça serait bien si seulement tu pouvais avoir raison. Et nous nous glorifions dans une espérance qu'un jour, effectivement, les doux seront ceux qui régneront sur le monde. Un jour, ceux qui ont faim et soif de justice seront complètement rassasiés. Un jour, les artisans de paix seront exaltés au plus haut de la société et non les exciteurs de guerre. Un jour, toutes ces choses qui nous font paraître peut-être comme des bisounours ou des niais ou des idéalistes, eh bien, en fait, elles seront reconnues comme vraies, évidentes, manifestes pour tout le monde. Et ce jour-là, c'est le jour où la gloire de Dieu apparaîtra. Et donc, quand je dis un jour j'aurai part à la gloire de Dieu, c'est-à-dire que tout ce que j'ai proclamé aujourd'hui, tout ce que j'essaye de vivre ou d'incarner, et pour lequel je peux être peut-être moqué, tourné en dérision, ou même rejeté, un jour, ce sera manifesté comme vrai pour tout le monde. Et j'aurai part à la gloire de Dieu. Donc Paul nous dit, voilà, puisque vous êtes justifiés, puisque vous êtes réconcilié avec Dieu, et puisqu'il n'y a plus rien qui peut venir détruire cette réconciliation, ce lien reconstitué entre vous et Dieu, alors votre destinée finale, c'est la gloire de Dieu. Nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Il ose aller plus loin. Bien plus, nous nous glorifions même dans les tribulations. Qu'est-ce que c'est que ces tribulations? Ça va être un mot assez propre au Nouveau Testament qui va désigner les épreuves et les douleurs que nous rencontrons à cause de l'expression de notre foi, parce que nous vivons justement notre foi chrétienne. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 16, Jésus dit: voici que l'heure vient, et même elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté et vous me laisserez seul. Je vous ai parlé ainsi pour que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, Mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Il y aura toutes sortes de persécutions, toutes sortes d'oppressions, toutes sortes de pressions sur l'Église et sur nous. Et Paul dit ceci. Passer par ce genre d'épreuve produit la persévérance. Et si nous persévérons dans ce genre d'épreuve, eh ben, notre fidélité, notre foi, elle est éprouvée. Éprouvée, en fait, si on retourne au mot ancien, si par exemple on allait fabriquer une barre de fer, d'acier, on allait la tester pour vérifier qu'elle a une certaine résistance. Donc on va l'exercer à des tests de pression, etc. Et puis si elle passe avec succès ces tests, elle est estampillée, éprouvée. Elle a passé, fait preuve de sa capacité. Quelque part, quand je suis soumis moi aussi à des épreuves de ce type-là, où ma foi est confrontée, où on m'agresse à cause de ma foi, où on me rejette à cause de ma foi, où je subis des pressions à cause de ma foi est éprouvée. Et la foi éprouvée produit de l'espérance. Donc j'espère participer à la gloire de Dieu et donc je m'engage dans une vie de témoin du Christ. Et à cause de cette vie de témoin, je suis peut-être rejeté, humilié, moqué, mis à mal. Eh bien, dans ces tribulations, Paul nous dit, ben, glorifiez-vous parce que, c'est un peu bizarre de dire ça, mais c'est-à-dire, toujours dans cette perspective d'une espérance, ok, je vais traverser ça, et un jour, je participerai au triomphe de Jésus. Et tout ce qu'on me reproche, et tout ce pourquoi on me rejette aujourd'hui, un jour, tous devront reconnaître que c'était vrai. Que c'était juste, que j'étais dans le camp de la raison. Et il dit que notre espérance, celle qui est dans notre cœur, ne trompe pas parce que justement cet Esprit de Dieu a répandu dans notre cœur l'amour de Jésus. C'est toute la deuxième partie du texte qui est assez importante. Je vous dirais ceci, comment savoir que vous n'avez pas misé sur le mauvais cheval? Comment savoir que vous avez parié le bon cheval? Le 30 juin, je crois, on va devoir voter pour nos nouveaux députés. Donc, on va bientôt être inondé d'une grande foultitude de professions de foi, de divers partis qui vont s'engager et nous dire, exprimer qu'est-ce qu'ils vont faire de bien, de beau pour la France. Et peut-être même certains jeunes vont s'engager ou même des. Pas forcément que des jeunes d'ailleurs, certaines personnes vont s'engager à la suite de certains leaders politiques pour en faire la promotion, pour coller des affiches, pour en faire la propagande et peut-être qu'ils se feront moquer, peut-être qu'ils se feront rejeter pour leurs idées, peut-être que certains vont essayer de mettre en avant des petits candidats de partis très minoritaires. Et ils vont subir peut-être des tribulations à cause de ces convictions politiques qu'ils vont manifester. Et je vous poserai cette question. Est-ce que le candidat qu'il représente, est-ce que le chef du parti politique qu'il représente aura un souci quelconque pour ses petites mains? Est-ce qu'il connaîtra leur nom? Est-ce qu'il les visitera? Il leur fera un chèque. Et c'est le jeu. C'est le jeu. On se bat pour une cause et on souffre pour une cause. Notre chef à nous, celui pour qui on fait campagne, celui dont on fait la propagande du programme politique. Vous connaissez le programme politique de Jésus? S'appelle le Sermon sur la montagne. Vous pouvez le relire en Matthieu 5. Celui-là vous connaît par votre nom. Celui-là connaît toute votre vie, tous vos soucis, tous vos doutes, vos peines, vos luttes. Celui-ci connaît aussi vos joies, vos rêves, vos espérances, vos attentes. Celui-ci est là dès votre lever le matin. Il veille sur vous même lorsque vous dormez la nuit. L'espérance que l'Esprit a répandue dans nos cœurs n'est pas uniquement la victoire de Jésus un jour, la venue du règne des cieux sur la terre un jour. Le Dieu que l'on sert, le héros, le candidat pour lequel nous nous engageons est un candidat qui est mort pour moi, mort pour vous. Paul dit, car lorsque nous étions sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine oserait-on mourir pour quelqu'un. Peut-être y aurait-il une personne qui dit, OK, je vais sacrifier ma vie pour lui parce qu'il est juste, ou quelqu'un qui est vraiment très bon. Mais Christ est mort pour nous et Dieu nous prouve son amour parce que lorsqu'il s'est sacrifié, nous étions ses ennemis. Ses ennemis. Donc on imagine un Gazaoui qui se sacrifie pour sauver toute la nation d'Israël qui le bombarde, ou un Israélien qui se sacrifie pour sauver des terroristes du Hamas qui ont sacrifié sa femme et ses enfants. On est dans cet ordre-là. Il nous aime. Il nous aime. Il veut farouchement la paix entre lui et nous. Et il veut farouchement nous impliquer dans son œuvre. Il n'est pas un de ces chefs de parti qui n'a cure de tous ces milliers de personnes qui travaillent dans son ombre et qui veulent le mettre en avant, exaltant sa propre personne. Bon, je suis certain qu'il y en a qui se soucient aussi des autres, mais notre Seigneur se soucie vraiment de nous. Vraiment de nous. Alors peut-être que vous allez connaître ces tribulations, peut-être que vous allez connaître ces moments où on va se moquer de vous, où on va vous faire de la pression, ou peut-être vous serez carrément rejeté. Dans certains pays, on est menacé dans nos vies pour être chrétien. Et se pose la question, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut la peine? La réponse se trouve en vous. En vous. La réponse se trouve dans cette relation que je construis avec Dieu, que Dieu me rend sensible, perceptible, sous forme de sensations, sous forme de pensées, sous forme de convictions, qu'il m'aime. Il n'y a pas d'autre chose par laquelle notre foi chrétienne commence que la certitude que Dieu m'aime. Et cette certitude, elle vient par ce qu'on appelle le don de l'esprit. Je vous relis ce passage qui m'est toujours très cher. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu a été manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non pas en ce que nous ayons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et qu'il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi aimer Dieu? Non, nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu, personne ne peut voir Dieu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, alors Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Vous aurez des tribulations. Vous aurez des épreuves qui mettront à mal votre foi. Vous aurez ces moments de... J'aime pas dire test parce que ça sous-entendrait que Dieu les envoie à dessein. Je ne sais pas, je ne prétends pas à ça. Je dirais simplement que le monde cherchant à aller par là et le royaume cherchant à aller par là, si j'habite ce monde et que je veux aller par là, au bout d'un moment, je vais me cogner contre des gens parce qu'on ne court pas dans la même direction et que forcément, ça va frotter. Ces moments où la foi, votre foi est testée. Déjà, n'oubliez pas que ces tests ne sont pas éliminatoires, puisque votre destin a été scellé par le Saint-Esprit et que votre espérance, c'est de participer à la gloire de Dieu. Donc, il y aura d'autres épreuves. Aucune épreuve n'est éliminatoire. Première chose. Deuxième chose, elle est là pour, non pas vous puissiez prouver quelque chose à Dieu, mais que vous pour que vous puissiez découvrir quelque chose à propos de vous-même. Dieu sait tout déjà. Il n'a pas besoin que vous lui prouviez que. Peut-être que vous avez besoin de savoir où vous en êtes. L'épreuve en sera l'occasion. Par la foi, vous traverserez d'une façon ou d'une autre et vous aurez appris à propos de vous et de votre espérance dans le Seigneur. Peut-être à propos de certaines choses qui vous relient ou de fondations qui sont mal posées dans votre cœur. Dans tous les cas, sachez ceci, vous ne décevrez pas le Seigneur. Et son amour pour vous ne vacillera pas. Encore moins qu'une flamme de bougie sous une brise d'air. Vous lui appartenez. La paix a été scellée entre vous et Dieu. Votre destinée, c'est le royaume. Rien ne doit venir changer cette certitude en vous. Amen.
C'est maintenant le moment de la prière d'intercession. Seigneur notre Dieu, nous te disons.